le but de ce matin, c'est justement de vous apporter une aide. Amen. Parce qu'on a besoin, quand on passe par l'épreuve, par la difficulté, eh bien d'être encouragé. On va ouvrir pour cela le livre des Nombres, chapitre 13, verset 1er. On va fractionner une lecture. Du premier verset au verset 3, et puis ensuite du verset 25 au verset 33. Vous l'avez. Allez, c'est bon. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. » Pas n'importe qui. Hein. Moïse les envoya du désert de Paran. D'après l'ordre de l'Éternel, tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. « Nous sommes allés dans un pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. » Ça commence bien. Voici les productions, hein, voici les fruits. Mais, parce qu'il y a un mais, le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Éthiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons. Emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Je vois qu'une chose, c'est que ces gens étaient marqués, impressionnés, terrifiés. Donc, il est logique qu'ils aient perdu tout courage. Amen. La réalité est là. Devant leurs yeux, ils avaient vu, ils avaient observé. Oui, pays magnifique, mais il y a des géants. Ils ont l'air terribles. D'ailleurs, nous, nous nous sentions tellement petits devant eux. C'est terrible. Vous savez que le découragement est une arme de l'adversaire pour empêcher justement l'enfant de Dieu d'aller de l'avant. Amen. Je ne vais pas reprendre ma question, mais qui ne l'a pas connu? Mais oui. Alors cela touche particulièrement ceux qui cherchent tout simplement la gloire de Dieu, qui veulent justement eh bien, que le Seigneur puisse se servir d'eux, hein, qui veulent travailler pour faire avancer le royaume de Dieu. Moïse a envoyé 12 hommes pour examiner eh bien, le pays de la promesse. Ces 12 hommes ont vu exactement les mêmes choses. Vous voyez ? Ils ont été là, c'était des témoins, ils ont vu les mêmes choses. Il y en a eu 10 qui ont été découragés et puis qui vont décourager également le peuple. Tandis qu'il y a, il y en a deux, hein, Josué et Caleb, eux, ils ont vu autre chose quelque part. Où ils ont vu la même chose, mais ils ne se sont pas laissés impressionner. Au contraire, ça leur a donné du tonus, du peps, comme on dit. Et eux, bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont encourager le peuple. Ils veulent tout simplement y aller. Ils veulent que tout le monde suive. Alors, pour ce qui concerne Josué et Caleb, je dirais qu'ils sont appuyés, vous savez, non pas sur leurs sentiments, mais c'est, je le crois, un état de cœur qui s'appuie sur Dieu, au lieu justement de regarder à la puissance de l'adversaire. Amen. Est-ce que nous avons un Dieu puissant? Alors, je vais chanter dans les toilettes. Mais oui, on a un Dieu puissant, un Dieu qui sait comment nous sortir eh bien, des griffes de l'adversaire, qui sait comment nous protéger. Alors, on va parler, allez, on va commencer par le négatif. Pour commencer, on va parler de ceux qui découragent, après on va les oublier. Vous voulez bien? Alors, écoutez un petit peu leur langage. Il est très significatif, je ne fais que lire. C'est un pays qui dévore ses habitants. Nous étions à nos yeux, à leurs yeux, comme des sauterelles. Voyez qu'est-ce qu'ils font là? Eh bien, ils proclament la supériorité de l'adversaire. Vous vous rendez compte? Je répète, nous avons un Dieu puissant, un Dieu qui est grand. Amen. Eh oui. Ils n'ont vu, je dirais, que le mauvais côté. Ils n'ont vu que quelques géants, mais ils n'ont pas vu, excusez-moi, les productions du pays. Le lait, le miel est passé sous silence. La beauté du pays, la valeur qu'ils représentent, sachant que c'est Dieu qui les envoie pour leur donner. Ça, ça passe au second ou en arrière-plan. Finalement, je dirais qu'ils ne parlent pas avec vérité. Parce que quand on a peur, quand on est découragé, tout prend une ampleur terrible. Alors ce n'est pas vrai. Amen. Ils exagèrent les difficultés. Et voilà que Dieu est même complètement absent de leurs propos. On met que l'adversaire devant. Ils sont terribles. Il y a les fils d'Anak, il y a ces géants. Ils dévorent les habitants. Aïe, aïe, aïe. Alors cela, on va le laisser tomber. Et on va parler maintenant de ceux qui encouragent. Parce que je crois qu'on a besoin de cela. Il y a Josué, il y a Caleb, des hommes, je dirais, spirituels. Pourquoi? Parce qu'ils s'appuient sur leur Dieu. Ils croient tout simplement que tous les adversaires seront vaincus par la puissance de Dieu. Qui le croit ce matin? Levez la main. Moi, je le crois. J'ai un Dieu puissant. Un Dieu qui accomplit ce que moi, je ne peux pas accomplir. Qui peut me donner ce que le monde ne peut pas me donner. Qui veut me donner des certitudes, de la force. L'obéissance et la foi, je dirais, sont la base de leur espérance. La présence de Dieu les délivre de la crainte. Ils disent, le Seigneur est avec nous. Parce que c'est comme ça. Vous savez qu'à un moment donné, Israël, une partie d'Israël, l'arrière-garde, a été dévorée parce qu'à un moment donné, le peuple a dit, mais Dieu est-il avec nous ou Dieu n'y est-il pas? Ce n'était pas une question. Mais c'était plutôt, quelque part, un constat pour eux grave. Mais est-ce que Dieu est vraiment là? Si je le prends comme ça, c'est plus clair. Et à partir de là, l'arrière-garde donc, eh bien, a été complètement défaite. L'obéissance, la foi, qui est la base de notre espérance, qui sera la base de notre espérance, elle est là. Ils vont dire, si Dieu nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. Amen. Ne craignez pas les habitants de ce pays. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez pas. Amen. Il est bien ce message, vous ne croyez pas? Eh oui. Vous savez que le découragement, il est contagieux. Nombre 14, verset 1er. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes, nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et se dire l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Et ils ont oublié 400 ans de dur labeur. 400 ans d'esclavage, 400 ans de fouet, 400 ans de disette, c'est oublié. Et nous rencontrons comme cela des gens qui découragent les autres. Je sais d'où je viens, je sais ce que j'ai quitté. Et croyez-moi, je ne veux pas y retourner. L'Égypte finit. Je veux le pays de Canaan. Je veux le pays où coule le lait et le miel. Est-ce que mon frère, ma sœur, tu désires la même chose que moi? Parce que c'est important. Amen. Voyez, on l'a lu ensemble, le découragement provoque des murmures. Il va créer un esprit de fatalisme. Il va éloigner de Dieu. Il va faire perdre la foi, tout simplement, dans les promesses de Dieu. Eh oui. Pourquoi Dieu nous a-t-il fait aller dans ce pays ? Alors qu'ils avaient crié à l'Éternel, et Dieu les avait délivrés par Moïse. Vous voyez ? Ils sont là. Pourquoi ? Pourquoi Dieu nous amène-t-il là ? Pourquoi, Seigneur, eh bien, permets-tu que nous passions par là ? Vous savez qu'il n'y a rien d'anodin avec Dieu. Le chemin par lequel tu peux passer aujourd'hui, Dieu le désire. Et si tu passes par ce chemin, c'est parce qu'il a quelque chose à t'enseigner. Il a quelque chose à te communiquer. Il ne faut pas refuser. Il ne faut pas aller quelque part geindre. Il faut dire, Seigneur, explique-moi, fais-moi comprendre. Fais-moi comprendre. Alors, pour vaincre le découragement, il faut faire une chose qui est importante. Il faut d'abord regarder aux promesses de Dieu. Amen. À la victoire glorieuse également de Jésus, qui lui a mis Satan sous ses pieds, parce que l'adversaire, il a été vaincu à Golgotha. Le Seigneur a triomphé de lui. Amen. Ensuite, il ne faut pas se laisser influencer par ceux qui sont, je dirais, ou qui ont plutôt des propos négatifs. Vous voyez ? Eh oui. Ça ne changera jamais. Il ne changera jamais. Elle ne changera jamais. Qu'en sais-tu ? Tu crois au miracle ? Eh bien, crois que Dieu va la changer ou le changer. Amen. La situation, oui, elle va être inversée. Parce que le Seigneur est puissant. Amen. Regardez plus tard, l'histoire se répète, l'histoire d'Israël, du temps d'Esdras. Lors de la reconstruction du temple, il nous est dit dans Esdras chapitre 4, verset 4, que les gens du pays découragèrent le peuple de Juda, ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Ça, c'est l'œuvre de l'adversaire. Son rôle à lui sera de stopper l'élan de foi, de stopper la confiance. Ça, c'est son œuvre. Bâtir pour Dieu. Eh bien, je vais te montrer ce que je vais faire, moi. Et il essaiera toujours de mettre, comme on appelle, des bâtons dans les roues. Il le fera toujours. Alors, ceux qui, quelque part, eh bien, s'associent à cela, ce sont des adversaires du peuple de Dieu. Et là, entre autres, pour Esdras, ils ne veulent pas que le temple soit reconstruit et que l'adoration à Dieu lui soit apportée. Pourtant, qu'est-ce qu'il y a de plus beau, de plus important que l'adoration ? Ça ne fait pas partie du premier commandement ? Tu adoreras le Seigneur, l'Éternel, ton Dieu ? Oui, l'adversaire dans nos âmes, son but, c'est de nous intimider, de nous décourager pour nous empêcher d'élever le nom du Seigneur comme il doit être élevé. D'empêcher de louer le Seigneur, de le servir. Il ne veut pas que le royaume de Dieu avance. Ça, c'est son rôle, c'est son but, nous empêcher d'aller de l'avant. Qui a envie d'aller de l'avant ce matin ? Je pense qu'on a tous envie. Amen. Alors, bien sûr qu'il faut connaître, sans confesser sa puissance, outre mesure, il nous faut connaître les desseins de l'adversaire. Parce que c'est par ce moyen que nous pourrons beaucoup mieux déjouer ses plans, ses ruses, afin de continuer à avancer, de travailler pour le Seigneur. Esdras, chapitre 5, verset 2, 1er et 2, nous dit que Zorobabel et Josué se levèrent et ils commencèrent à bâtir la maison de Dieu, et avec eux étaient les prophètes de Dieu, qui les assistaient. Vous voyez, le travail, malgré l'adversité, malgré la menace, eh bien, il reprend grâce à des hommes et des femmes remplis de l'Esprit. Là, il y avait des prophètes, hein, avec Zorobabel et Josué. L'Esprit de Dieu n'est-il pas un esprit de force ? Ah oui ? C'est un esprit de victoire. Que le nom de l'Éternel, que l'Esprit de Dieu, que le nom de Jésus. C'est l'Esprit de Dieu, déjà, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Amen. Il n'est pas possible qu'il reste dans le tombeau, ni sur la croix. Donc, il est ressuscité le troisième jour. Et notre courage, eh bien, il viendra justement de la présence du Saint-Esprit en nous. Entretenez cette vie de l'esprit. C'est important. Un jour, j'avais une sœur, elle avait un dent de scie, vous savez sa vie. un coup en haut. Waouh, on ne la retenait plus. Pof, en bas, au fond de la vallée. Et puis là, il fallait qu'elle remonte. Alors je lui ai dit, mais est-ce que tu es baptisé dans le Saint-Esprit ? Mais oui, frère, il y a longtemps. D'accord. Tu me dis, il y a longtemps, pourquoi ? Ben parce qu'il y a longtemps, j'ai été baptisé, mais tu as été renouvelé quand ? Il y a longtemps. Mais je dis, mais c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Entretiens cette vie de l'esprit. Entretiens cette communion avec le Seigneur au travers du Saint-Esprit. Il te l'a donné. Et tu vas devenir de plus en plus forte. Tu vas comme poser des briques ou des pierres dans ta vie spirituelle et tu vas devenir une place imprenable pour l'adversaire. Là où il te fait glisser, là où il te fait déraper, là où il te fait peur, eh bien, tu deviendras insensible. Parce que celui qui va répondre à l'adversaire, ce sera le Seigneur. Amen. Alors veillons à ne pas être un moyen de découragement. C'est Paul qui dit dans sa lettre aux Colossiens, « Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » On peut décourager des bébés spirituels, des enfants spirituels. Et il faut veiller justement avec sagesse à cela. Parce qu'on peut décourager comment ? Avec beaucoup de sévérité. Par des reproches répétés, quelquefois injustifiés, par un manque d'intérêt, par de l'indifférence. On peut être indifférent par quoi ? Un jeune frère, une jeune sœur fait une expérience. Pour lui ou pour elle, c'est formidable, c'est le ciel sur la terre. Et puis nous, on n'y prête pas attention, parce que ça, on l'a vécu il y a longtemps. Sachons encourager. Amen. Sachons encourager. Maintenant, devons-nous flatter quelqu'un qui est dans l'erreur ? Devons-nous flatter avec des mobiles malsains ? Non. Non. Nous suivons un Dieu de vérité. Un Dieu d'amour. Amen. Celui qui est dans l'erreur doit bien être repris. Oui. Il doit entendre la vérité sur son comportement, son attitude, sur ses propos. Frère, on ne parle pas comme ça. Non, dites pas ça, frère. On explique. La flatterie, c'est un motif impur et intéressé. La flatterie, elle est condamnable. Amen. Pas moi qui le dis, c'est le proverbe. Proverbe 26, 27, 28. La bouche flatteuse prépare la ruine. C'est-à-dire qu'elle tient un piège. Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, c'est bien, c'est bien. Et puis, boum. Maintenant, je ris. Ça, c'est condamnable. Amen. L'encouragement, il doit être vrai, sincère. L'encouragement est biblique. Amen. Disons pas, attention à l'orgueil. Si je l'encourage. Mais non, l'esprit de vérité saura à ce moment-là reprendre. Amen. Il révèle le bon côté des choses, les efforts qui sont faits. Et c'est ça l'encouragement. Amen. C'est bien, mon frère. Bien, ma sœur. Oh là là. Je suis content pour toi. Alléluia. Ah, ça fait du bien de te voir. On voit que vraiment tu as récupéré là. C'est bien. C'est bien, ça c'est encourageant. Hein. Amen. L'encouragement, il vient de Dieu. Lors de la préparation de la conquête de Canaan, Dieu va demander à Moïse d'encourager Josué. Hein? Il lui dit, donne des ordres à Josué, fortifie-le et affermis-le, car c'est lui qui mettra le peuple en possession du pays. Amen. Savez, quand un frère ou une sœur a une victoire, c'est l'Église qui est enrichie. C'est tout le corps de Christ qui est enrichi, qui est fortifié, qui est encouragé. Amen. C'est pourquoi il faut toujours chercher à encourager ceux qui travaillent pour le Seigneur. C'est la même chose pour ceux qui passent par des épreuves, par la maladie, par des difficultés terribles. Il y a des contextes que l'on ne recherche pas, que l'on ne veut pas, mais ils se présentent à nous. Et c'est là qu'il faut savoir encourager. Une parole d'encouragement, elle va augmenter la foi, elle va conduire tout simplement vers la victoire, celui qui passe. Quelque part, on s'associe parce qu'on va aussi prier. Amen. Le fait de... Petit coup de téléphone. Frère, j'ai prié pour toi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai prié pour toi. Qu'est-ce que ça encourage? Amen. Ça encourage, ça fait du bien. Ésaïe nous dit que le serviteur de l'Éternel, il ne se décourage pas. Je lis Ésaïe 42, verset 1er. « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, il ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé. Il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera pas, ne se relâchera pas, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. » De qui s'agit-il? De Jésus. C'est notre modèle. Est-ce que Jésus aurait pu être découragé? Ben oui, hein. Croyez pas? Eh oui. Par tant de choses dirigées contre lui, il aurait pu baisser les bras. Contre son message, contre son œuvre. Ça y est, certains ont essayé de le faire, bien sûr. Hein. Alors, il aurait pu être découragé à cause, par exemple, de l'ingratitude. Sur 10 lépreux, combien sont revenus? C'est décourageant, hein? 1%. Ou 1/10, je ne sais plus. Vous vous rendez compte, ce n'est pas beaucoup. Tout ça pour un seul. Bon, il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Hein. Alors, il peut être découragé également à cause de l'incompréhension de sa famille, de ses proches et même de ses disciples qui ne comprenaient pas. Mais ils sont bouchés ou quoi? Bouchés, fermés, hein, je veux dire. Hein. Pas bouchés, hein, la viande. Vous comprenez? Mais oui. Il aurait pu être découragé à cause de l'hostilité des Juifs qui lui sont, quelque part, alors, injustement condamnés, qui l'ont fait mourir. Je viens vers eux, c'est un bon peuple. Et où est-ce qu'ils me font? Eh oui. Alors, après 3 ans et demi de ministère béni, des milliers de miracles, si peu lui sont restés rattachés. Est-ce que ce n'aurait pas été également un sujet tout simplement de découragement à la croix? Il y a quelques femmes, Jean est avec lui. Pas beaucoup, hein? Quelques femmes et Jean. À Pâques, les disciples ont du mal à croire à sa résurrection. Il est ressuscité. Oh, vous rigolez. Non, on l'a vu, il est sur la croix, il est dans le tombeau. On le sait. Non, mais il est vivant. Arrête. Écoute, là, tu nous fais mal. Vous comprenez? Donc, on ne croyait pas à sa résurrection. Pourtant, les plus près, hein. Dans la Chabrotte, après l'ascension, ils ne sont que 120. Sur des milliers qui ont été bénis, relevés, guéris par lui. Jésus n'a laissé aucune organisation, aucun écrit, aucun trésor, ni finance. Et aujourd'hui, comme l'a prophétisé le prophète Ésaïe, les nations et même les îles espèrent en lui. Amen. Tu n'es pas le seul, tu n'es pas la seule à espérer en lui. Des multitudes, aujourd'hui, ce matin, dans la journée, vont se rassembler pour élever le nom de Jésus. Il est digne de confiance. Ne te décourage pas. Amen. Quand on a été vaincu par le découragement, comment reprendre courage? Comment? Jésus a dit à plusieurs reprises au cours de son ministère, à différentes personnes, différentes occasions, différentes situations, certaines ne se ressemblaient pas du tout, il dira, prends courage. Prends courage. À cette femme atteinte de la perte de sang qui venait d'être guérie, Jésus lui dit, prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Amen. Ah oui. Il répète encore aujourd'hui la même chose. Prends courage pour la guérison, pour le témoignage que tu rends, pour l'épreuve que tu subis, pour la difficulté par laquelle tu passes. Prends courage. Amen. Un homme paralytique, qu'on venait de lui amener, Jésus lui adresse ces simples mots. « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Le péché, j'en parle souvent, mais je me crois quelque part recommandé par le Seigneur pour cela. Le péché nous fait perdre courage. Amen. Mais faut-il y rester dans le découragement parce qu'on a failli? Il y a le pardon. Et le pardon va nous redonner du tonus, du courage. Amen. Puis on va retenir la leçon. Je vous ai dit il y a quelque temps, hein, un frère me disait, il ne faut pas oublier, je vais faire un nœud à mon mouchoir. Donc quand vous allez saisir votre mouchoir avec un nœud, vous allez dire, oh là là, attention. Gardez-le dans la poche. Et quand vous sentez que vous avez une décision à prendre, pas mauvaise, hop, mettez la main dans la poche, vous sentez le mouchoir avec un nœud. Ah, attention, la dernière fois, je me suis planté. Et ça fait réfléchir. Vous voyez ? Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Un homme aveugle qui est assis au bord du chemin, il est résigné dans sa misère. Jésus lui fait dire, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Amen. Vous voyez, quand Jésus s'intéresse à nous, qu'il nous appelle, eh bien, nous retrouvons du courage. Parce que cet aveugle, il ne s'est pas fait prier. Il a jeté son manteau de misère, il est allé d'un bond bien vers le Seigneur. Amen. À ceux qui sont dans la tribulation, Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Donc, c'est clair, il sait. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Donc, tu peux reprendre courage. Parce que Jésus, c'est ta victoire. Amen. À l'apôtre Paul, alors qu'il était arrêté, traduit devant le Sanhédrin, et qu'il devait rendre témoignage, Jésus lui apparaît et lui dit, « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » Et l'apôtre a été fortifié, rempli de courage, au sein même de son épreuve. Amen. C'est important d'entendre cela ce matin, vous ne croyez pas? On en a besoin, hein? L'Éternel a dit à Josué, après la mort de Moïse, « Moïse, mon serviteur est mort, maintenant lève-toi, passe Jourdain, toi, tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Éthiens, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. » La vie. Moi, je pense à la vie spirituelle, la vie de l'esprit. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement. Voilà ce que tu dois faire. Et bon courage. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi, la parole de Dieu, ne s'éloigne point de ta bouche, médite-la jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Est-ce que le Seigneur est avec toi? Peut-être tu réfléchis, tu n'oses pas dire « Oui, tu es avec moi. » Parce que tu sais que peut-être le chemin sur lequel tu es n'est pas le chemin du Seigneur. Alors pour être sûr, pour être fort, pour être sans être effrayé, pas d'épouvante, lis la parole de Dieu, médite-la. Avant de t'engager, demande au Seigneur si tu dois bien prendre ce chemin, telle décision. Amen. Fortifie-toi, prends courage. Pourquoi? Parce que nous avons une assurance. Qu'est-ce qu'il a dit? Je serai avec toi. Amen. Nous avons une promesse. Tu mettras ce peuple en possession du pays. Alléluia. Et puis, il y a une double exigence, bien sûr. J'y reviens. La lecture de la parole de Dieu et l'action. Médite-le, ce livre, jour et nuit, pour agir fidèlement. Amen. Tout est là. Alors, pour reprendre courage, nous avons aussi besoin de la communion fraternelle. Eh oui. Paul est à Lystre. Pas Istre, hein. Lystre. D'accord. Il prêche l'évangile de la grâce. Il y a des guérisons, des conversions. On voulait même lui offrir un sacrifice, comme s'il était un dieu. Bon, il va les stopper, les arrêter. Hein. Mais voilà qu'arrivent d'Antioche et d'Icône des Juifs. Ils vont gagner la foule et lui, il va être battu à mort. C'est décourageant. Vous avez travaillé pour le Seigneur, vous avez lutté, vous avez encouragé. Et là, tout est là pour vous décourager. On vous bat en plus, on vous maltraite. Eh bien, il va reprendre vie grâce à quoi ? Il est dit dans Actes 14, versets 19 et 20, il va reprendre vie grâce aux frères qui l'entourent. La communion fraternelle. Qu'est-ce que c'est important ? Amen. C'est ce qui fait la force de l'Église. C'est ce qui fait la force du peuple de Dieu. Amen. Plus tard, pour les prisonniers, encore pour le nom du Seigneur, il arrive à Rome et il nous est dit que la vue des frères va lui redonner courage. Acte 28, 15. Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Alléluia. Vous savez, le Seigneur vous donnera toujours quelqu'un au bon moment pour vous encourager. Amen. Il faut avoir bien sûr les yeux ouverts. Pas regarder trop les géants. Mais regardez le Seigneur. Amen. Et là, vous verrez les petits clins d'œil du Seigneur. Tac, tac, comme ça. Pour vous encourager. Je conclue, parce que je ne veux pas être long. L'adversaire, son rôle, j'y reviens, c'est de nous décourager. C'est d'arrêter notre engagement, notre investissement, d'arrêter le travail du Seigneur, de stopper dans la marche quelqu'un qui s'est engagé. Ça, c'est son rôle. Mais voilà que par l'Esprit de Dieu, par sa présence en nous, mais aussi par sa parole, Dieu cherchera toujours, toujours, toujours à nous encourager. Amen. Il ne faut pas se tromper. Celui qui décourage, ce n'est pas le Seigneur. Et là, on peut discerner. Le Seigneur veut nous encourager. Alléluia. Alors, je crois qu'à l'exemple du Seigneur, eh bien, nous devons nous aussi chercher à encourager notre prochain, notre frère, notre sœur. C'est-à-dire nous encourager mutuellement. Parce que la vie chrétienne, c'est un combat terrible. Amen. Il y a des moments où on a l'impression que ça y est, tout va bien. Et puis derrière, pouf! Et tant qu'on sera ici-bas, il y aura des combats à mener. Il faudra livrer bataille. Il faudra s'encourager. Amen. Parce que ça peut vite, 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 vite nous gagner, le découragement. Donc on a besoin, pour devenir fort, pour lui résister, tout simplement de savoir encourager l'autre, afin qu'un jour l'autre vienne nous encourager. Amen. Et là, on fait honneur au Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous avez compris ou je recommence ? Non, on va s'arrêter là. Ah, je peux reprendre. Mais ce qui est formidable, c'est ça. C'est que le Seigneur ne nous laisse pas. Pas dans la bara. Il nous apporte la lumière, celle qui vient d'en haut. Il nous apporte la vie. Amen. Pourquoi est-ce qu'on fait des expériences ? Pourquoi est-ce qu'on a des victoires ? Sinon, pour nous en souvenir, quand ça devient difficile. Seigneur, qu'est-ce que c'est bon, tu veux ? Il y en a qui ont galéré pour montrer Notre-Dame de la Garde hier. Mais nous, quelquefois, en plus, il y a des pierres. Ça glisse. Sans oublier les paroles qu'on entend. Tu n'y arriveras pas ! Ah, c'est encourageant, ça. Quand on est allé à Rodez, la première fois que je t'ai vu, c'était à Rodez. Quand on est allé à Rodez avec mon épouse, on partait de la région de Béziers. Et on était donc muté à Béziers, à Rodez. On était encouragés. Un frère nous a dit, « Voyez, le climat, il est froid. » D'accord, on le sait. Les contreforts du Massif central, c'est froid. Mais il a dit aussi, « Les cœurs, c'est la même chose. » Oh pétard, t'es encouragé là. Mais le Seigneur nous a encouragés. Le jour de notre déménagement, on est dans un petit snack en train d'attendre pour manger. Il y a un gars à côté de moi qui vient me déballer sa vie. Je dis, ben, ils ne sont pas si froids que ça ici. Il est venu me parler de tous ses problèmes, sa vie, etc. Ben, non, là, moi, je réponds avec le Seigneur. Hein. Mais voyez un petit peu, quand on veut nous décourager, le Seigneur, il compense, il nous encourage. Amen. Que ce message ce matin puisse avoir encouragé quelqu'un. J'espère que ça vous a tous encouragé, que ça vous a fait du bien.